Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions. Vous êtes président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous êtes député de la Somme. Très nombreuses questions à vous poser. C'est vous qui, il y a 10 jours maintenant, avez redit, au fond, réexplicité l'idée que le RN interdirait le voile. C'est vous qui êtes aussi le monsieur économie. Autant vous dire qu'on aimerait bien comprendre où vous allez faire les 125 milliards d'économies. Je vous en interrogerai dans un instant. Interroger aussi sur les questions internationales. On se demande si ce n'est pas le talon d'Achille aussi du Rassemblement national. Mais d'abord, la Tour Eiffel, on apprend qu'elle va rouvrir dans 1 heure, après avoir été fermée hier, mouvement de contestation. Les femmes avaient été écartées lors d'une visite officielle d'un groupe religieux hindou, écartées, invisibilisées, mises littéralement dans des pièces à l'écart. Comment vous réagissez ?
Bah, c'est scandaleux, c'est intolérable. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont réagi hier. Bon, d'ailleurs, on peut se féliciter que sur ce sujet-là, au moins, la classe politique réagisse unanimement. Je comprends pas comment ça a été possible. Les syndicats ont réagi après, tant mieux. Pourquoi ils n'ont pas réagi avant, pendant, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre cet épisode. J'espère que la lumière sera faite. Moi, je pense déjà aux employés femmes à qui on a demandé effectivement de ne pas être visibles. J'imagine quand même l'humiliation que ça doit être et la douleur qui a été ressentie, mais ça correspond, malheureusement, d'une manière générale, dans la société française, à des choses qu'on accepte, qui sont inacceptables. Voilà, maintenant, la liberté des femmes est lourdement attaquée au quotidien, sur les libertés vestimentaires, sur les libertés de comportement, sur le fait d'aller dans les quartiers où on veut, de pouvoir prendre les transports publics. Bref, malheureusement, la liste est longue.
C'est
et elle s'allonge d'année en année. Et c'est lié, évidemment, à la proposition de lutter contre le symbole de l'idéologie islamiste et misogyne qu'est le voile islamiste.
Vous faites un lien ?
Bah là non, c'est pas la même communauté, non. Mais le fait d'accepter des choses inacceptables et qu'on dise pas grand chose et puis que on se réveille quand c'est un peu trop tard, c'est-à-dire que quand une ligne rouge est franchie, moi j'ai pas envie que d'autres lignes rouges soient franchies et malheureusement il y a beaucoup de lignes rouges qui sont franchies.
C'est ce que vous dites, Jean-Philippe Tanguy, quand vous dites tout ça est lié au fond, ça veut dire que pour vous, l'interdiction du voile, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même eu l'impression que vous relanciez cette idée avec quand même d'abord une question d'applicabilité. Et puis pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Et quel voile ? De quoi est-ce qu'on parle ?
Non, mais c'est le voile islamiste. Il n'y a aucune difficulté là-dessus.
Islamiste, c'est quoi ? Est-ce que c'est le foulard ? Est-ce que c'est l'abaya ? Est-ce que c'est le voile intégral ?
Mais là, vous avez cité 3 voiles islamistes. Voilà, la baya qui couvre la quasi-totalité du corps, le voile intégral qui voile la totalité du corps, et le hijab qui cache le cou, les épaules, la nuque.
C'est le hijab qui sera interdit ?
Mais on verra. C'est Marine Le Pen qui annoncera dans les mois à venir précisément ce qu'on proposera au sein d'un texte qui sera proposé à un référendum qui est très clair. Le texte, l'article 10 de la proposition de loi pour lutter contre les idéologies islamistes, il y a 39 articles, dont l'article contre les signes idéologiques qui proclament et qui diffusent l'islamisme renvoie à la définition de l'islamisme. Et en fait, ce qui m'étonne dans cette affaire, enfin parmi d'autres, c'est la méconnaissance en fait de nos adversaires politiques, du personnel politique français en général, sur ce qu'est l'islamisme. L'islamisme définit ce qu'est le voile islamiste. L'islamisme, par définition, comme tous les fanatiques, définit à peu près tout ce qui peut correspondre à votre quotidien, dans votre vie. Les moindres détails, comme tous les intégristes et les fanatiques, sont définis. Donc en fait, ils se déclament eux-mêmes comme des juristes. Tout est défini dans l'idéologie islamiste. C'est des pages et des pages de doctrines pseudo-religieuses pour entraver la vie des êtres humains et en particulier des femmes.
Jean-Philippe Tanguy, la France Insoumise, par la voix de Mathilde Panot, disait que eux au pouvoir, ils réautoriseraient l'abaya dans les collèges et les lycées. Elle est interdite depuis 2024. Comment vous réagissez à ça ?
Mais ils ont tout lâché, voilà. Là, la gauche a tout abandonné. Idéologiquement, historiquement, c'est la gauche qui était à l'avant pour l'émancipation des femmes, la libération des corps des femmes, car la libération des corps est évidemment liée à la libération des esprits, à l'émancipation intellectuelle. intellectuel, à pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie, et croire l'inverse est complètement absurde. Toutes les sociétés à peu près humaines ont contraint les femmes par le vêtement particulier, par le voile. Nos aïeuls en France, moi je suis d'une famille bretonne, quand vous regardez les photos du début du 19e siècle, les premières photos,
elles étaient voilées,
parfois dans certaines cultures bretonnes, parce que c'est plein de petites cultures, la Bretagne, de noir, pas folichon, parfois avec des belles dentelles, mais l'esprit était le même, à savoir que le corps de la femme était déjà impudique, qu'il fallait le cacher. Donc en fait, ce que je ne comprends
pas... Vous réjouissez que les femmes bretonnes ne portent plus le voile ou la dentelle
pas. Mais la régression qui est acceptée par de plus en plus de familles politiques, en réalité ce que montre cet épisode, par la totalité des familles politiques maintenant en dehors du Rassemblement National, c'est cette régression que symbolise le voile islamiste sur le corps des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, madame de Malherbe? Ça veut dire, je couvre mon corps parce que mon corps est impudique devant une religion, une idéologie. Et les hommes, c'est pas aux hommes d'être bien éduqués, c'est pas aux hommes de se restreindre, c'est pas aux hommes de bien se comporter, c'est les femmes qui doivent payer pour ça. C'est inadmissible. Mais regardez ce qui s'est passé. Enfin, vous avez un peu d'expérience, madame de Malherbe,
même si vous avez
sur
pas
les caricatures.
Est-ce que vous n'avez pas vous retrouvé, Jean-Philippe Tanguy, à stigmatiser des femmes? On pense à la mère de la première victime de Mohamed Merah, qui depuis la mort de son fils Latifah Ben Zaten porte le foulard, estime que c'est un signe aussi d'émotion vis-à-vis de la mort de son
de
fils,
deuil.
Une femme comme elle, demain avec vous au pouvoir, qu'est-ce qui se passe?
Et je pense que son voile ne rentre pas dans la définition de ce qu'est le voile islamiste, si je m'en confère à ce
que
je dénonce comme islamiste.
Ça veut dire que vous distinguerez le foulard du hijab.
Mais oui, je pense que c'est là-dessus qu'on aboutira, parce que c'est le sens de la doctrine de l'article 10 de la loi de Marine Le Pen contre les idéologies islamistes. C'est un article qui renvoie à l'idéologie. Cette dame, excusez-moi, j'ai un trou noir sur son nom.
Latifah Ben Zaten.
Merci beaucoup. Ne porte pas le voile islamiste. Elle ne proclame pas le voile islamiste. Et ce n'est pas un voile islamiste. Mais en fait, il y a une confusion, c'est pas ce que vous faites ce matin.
Enfin, pardon, mais la confusion, vous l'avez aussi laissé vous entendre, sans préciser de quoi il s'agissait.
Non, moi, sincèrement, l'interview où j'ai parlé de ça, c'est une question de vos collègues. On n'a pas parlé sur une heure d'interview, on en a parlé 4 minutes. Si on m'avait demandé, comme vous faites ce matin, d'être plus long, j'aurais été plus long. D'ailleurs, c'est de ma faute. C'est moi qui oubliais le référendum sur la loi, mais à culpa, c'est pas le
donc,
reste du parti.
Donc, ça passerait par un référendum. Et par ailleurs, vous précisez ce matin qu'il s'agirait donc d'interdire le hijab, mais ne pas interdire le fichu ou le foulard.
On s'attaque pas à un syndrome, à une doctrine culturelle ou à une doctrine religieuse. On s'attaque à un symbole qui est le voile islamiste, tel qu'il a été défini par les deux grands courants, malheureusement, qui ont frappé les démocraties, qui ont abattu un certain nombre de régimes laïcs dans le monde arabo-musulman aussi, à savoir les frères musulmans pour les sunnites, la révolution islamiste en Iran pour
Jean-Philippe Tanguy.
Et vous voyez bien, moi je trouve que moi, sincèrement, hein, c'était intéressant en fait ce qui s'est passé, hein, parce que je trouve que l'abandon de Monsieur Retailleau, qui a complètement abandonné ses valeurs, 80% des électeurs de droite sont pour l'interdiction du voile islamiste, il les a abandonnés. Monsieur Attal, qui faisait des voix pour limiter, interdire le voile aux fillettes, qui malheureusement maintenant dit qu'on peut plus définir le voile islamiste. Vous voyez, madame de Malherbe, soit on peut définir le voile islamiste pour tout le monde, les fillettes, les adultes, soit c'est pour personne.
La baïa a été reconnue comme un vêtement religieux, donc le Conseil d'État définit aussi ce qu'est un vêtement religieux ou non.
Mais tout le monde sait le faire, tout le monde sait le faire. Moi, quand je vois certains qui essaient de nous coincer, entre guillemets,
donc quoi,
en montrant des photos...
Donc quoi, ça veut dire que pour vous, quand Gabriel Attal était aux avant-postes de ces questions-là, en interdisant la baïa dans les écoles, c'est lui qui avait pris cette décision, en demandant l'interdiction du voile pour les fillettes de moins de 15 ans, vous avez l'impression qu'il recule sur ces questions-là?
Bien sûr qu'il recule, c'est-à-dire que face à l'obstacle, il recule, et puis c'est juste pour faire des polémiques contre le Rassemblement National, et en fait, la liberté des femmes, l'émancipation des femmes, ils en ont rien à faire. La lutte contre l'islamisme et l'idéologie islamiste, ils en ont rien à faire, et c'est le pas de vague, voilà, c'est la lâcheté. C'est pour ça que j'ai commencé, je vous remercie d'avoir posé la question sur la Tour Eiffel, parce que ce sont deux sujets qui ont l'air différents, mais il y a un point commun, c'est la lâcheté. Voilà, on ne veut pas affronter les problèmes. On met sous le boisseau, on met dans le placard, on met sous le tapis, et puis quand le tapis est trop rempli, on commence à voir qu'il y avait peut-être un problème, mais parfois c'est trop tard. Et je voudrais finir sur un exemple, madame de Malherbe, parce que tous ceux qui nous écoutent savent que c'est la vérité. Il y a 15 ans, tout le monde était pour la liberté de blasphémer. Tout le monde était pour les caricatures religieuses. Tout le monde était Charlie. Maintenant, elles sont où les caricatures religieuses? C'était parti du Danemark. C'est fini, il n'y en a plus. dans tout le monde anglo-saxon, et vous savez, les journalistes le reconnaissent eux-mêmes, il n'y a plus de caricatures religieuses.
Elles ne sont pas interdites, mais elles ne sont tout simplement pas dessinées, vous voulez dire? C'est une forme d'autocensure?
Autocensure. Lâcheté, c'est la définition de la lâcheté. Il y a des régimes autoritaires où des gens courageux sont empêchés de s'exprimer, et puis il y a des régimes libres comme les démocraties occidentales où on pourrait s'exprimer et on n'ose plus parce qu'on a la trouille. Et d'ailleurs, je comprends qu'ils aient la trouille. Moi, j'ai reçu des dizaines de menaces de mort. Vous voyez, j'en ai diffusé certaines avec mon collègue Sébastien.
J'ai reçu des dizaines de menaces de mort.
Des dizaines de menaces de mort que j'ai signalées aux autorités. Des dizaines de menaces de mort.
Là, depuis 10 jours, depuis que vous avez reparlé de l'interdiction
de mort, de viol, de violence. Alors d'habitude, c'est les néo-nazis qui m'agressent parce que je suis leur cible préférée dans le paysage politique. Là, c'est les barbus. C'est pas les femmes d'ailleurs. Je n'ai reçu aucune menace d'une femme et je n'ai reçu d'ailleurs aucune menace, je vais vous dire, de quelqu'un
vous
qui
êtes, se réclamait. Vous êtes en train de nous dire, Jean-Philippe Tanguy, que vous êtes régulièrement la cible de menaces de mort. Vous dites de la part des néo-nazis.
D'habitude, c'est les néo-nazis. Oui.
Et de la part de ce que vous appelez les barbus, j'imagine que vous parlez des radicaux islamistes.
Oui, des islamistes, oui, parce que je les confonds absolument pas avec les Français de confession musulmane. Je n'ai reçu aucune menace de mort, Madame de Malherbe, et je tiens à le dire ce matin, d'une personne qui se réclamait de l'islam. Zéro. Je n'ai reçu aucune menace d'une femme qui pratiquait sa religion. J'ai échangé sur les réseaux sociaux avec quelques femmes qui pratiquaient l'islam et qui voulaient comprendre notre mesure. Oui, et qui voulaient comprendre notre mesure. Et aucune violence, aucune menace. Par contre, des espèces de mecs d'une vulgarité épouvantable qui me menacent de mort, ils se sont pas réclamés de l'islam. Donc je tiens à faire la différence.
Vous avez porté plainte, Jean-Philippe Tanguy?
Bien sûr.
Vous avez porté plainte?
Enfin, j'ai fait des signalements article 40.
Article 40. Jean-Philippe Tanguy, vous dites il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous voyez que l'AFD est à 44% dans un des Landes allemands, que le chancelier allemand se dit profondément choqué, l'êtes-vous aussi?
Oui, on est choqué parce qu'évidemment il y a des réminiscences de l'histoire et il y a une incompréhension parce que certains de mes adversaires politiques sur les réseaux sociaux depuis hier essaient polluer ce que j'ai dit. Moi j'ai dit ça sert
ils
à rien
ont
de diaboliser.
Été vos compagnons de route.
Oui, non mais
ils
moi
ils ont
jamais.
Été vos compagnons de route.
Moi je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais avec Monsieur Dupont-Aignan à l'époque avant les élections de 2019. On était allé au Parlement européen rencontrer les gens de l'AFD. Bon, on est sorti du bureau du mec qui représentait l'AFD à l'époque, terrorisé. Vraiment, je suis sorti de là, terrorisé avec Nicolas Dupont-Aignan. On s'est dit, mais c'est pas possible, ces gens.
Mais pour autant, avant 2004, le RN n'avait pas rompu.
Et effectivement, quand je suis arrivé au Rassemblement National, avec d'autres, et Marine Le Pen, Jordan Bardella, on avait rapidement décidé de rompre avec l'AFD, qui faisait des déclarations, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus contestables, et ensuite sur un certain nombre d'axes politiques, notamment la remigration, y compris des personnes d'ascendance, enfin d'origine immigrée qui sont intégrées, qui ne sont pas les nôtres, pas du tout. Mais si vous voulez, il faut comprendre, voilà, parce que moi j'ai dit, ça sert à rien de diaboliser. Moi, je pense que ça sert à rien de diaboliser. Il faut répondre aux problèmes des gens.
Ça veut dire quoi? Ça sert à rien de diaboliser. Est-ce que vous pensez, comme Sarah Knafo, qu'il faut dire que ce ne sont pas des néo-nazis?
Non, mais il faut condamner ce qui est condamnable.
Est-ce que vous diriez que ce sont des néo-nazis?
Si c'était néo-nazis en Allemagne, c'est interdit. Voilà, il faut le savoir parce qu'il faut aussi informer les gens. Heureusement, la constitution allemande s'est protégée de sa propre
histoire. Donc vous dites aussi ce matin, ce ne sont pas des néo-nazis?
Non, je dis que l'Allemagne, le gouvernement fédéral.
Interdit.
Il y a un parti néo-nazi qui a été interdit il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Je dis l'Allemagne ne l'a pas interdit. Donc je dis, moi j'essaie de comprendre pourquoi les gens votent pour eux. Donc, alors que les propositions me choquent. Moi j'essaie de m'adresser, comment dire, collectivement à un débat intelligent entre nous.
Est-ce que Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous
le prix de l'énergie, Madame de Malherbe, la politique qui a été menée en Allemagne de l'Est, l'ouverture des frontières complètement irrationnelle par Madame Merkel et sans demander l'avis des partenaires européens, je vous le rappelle.
En gros, vous dites c'est la faute des autres, de ceux qui étaient au pouvoir.
Par définition.
Sauf que quand même, des gens se sont mobilisés pour voter pour eux. 80% de participation,
absolument.
Un taux de participation en hausse de 20%. C'est un choix sciemment d'avoir voté pour cette liste-là. Est-ce que ça vous fait froid dans le dos? Est-ce que vous dites, comme Monsieur Merz, que vous êtes choqué?
Mais bien sûr que ça me choque, puisque ils ont voté pour des gens qui relativisent le passé nazi de l'Allemagne, qui explique qu'on pouvait être SS sans être une mauvaise personne. C'est scandaleux. Voilà. Mais une fois que vous avez dit ça, il faut comprendre pourquoi les gens votent, parce que sinon vous pouvez pas y répondre.
J'aimerais bien comprendre une chose, Jean-Philippe Tanguy.
Ils n'ont pas voté parce que c'est des nazis. Ils ont voté parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité.
Dans
ils n'arrivent plus à nourrir leurs gosses.
Il y a le procès des deux assassins présumés,
oui,
d'Aramburu. Loïc Le Priol et Romain Bouvier. Tous deux ont aussi été des compagnons de route à un moment du Front National, du GUD et de la branche jeunesse du parti. Pourquoi je vous pose la question juste après l'AFD? à un moment ou à un autre, vous avez été compagnon de route de l'AFD, ou en tout cas, il y a eu une proximité. Avant de rompre, semble-t-il, la même chose pour Loïc Le Prieur et Romain Bouvier, il y a eu une rupture. Mais ils ont, à un moment ou à un autre, été au minimum attirés par ce que le Front National à l'époque, le RN aujourd'hui, représentait. Est-ce que être suivi par des gens comme ça, ça vous écœure? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, oui, il y a, gravitant autour de nous, parfois, attiré par ce que l'on est, des gens comme eux?
Malheureusement, oui, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont attirés par nous, puisque le discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella est on ne peut plus clair, c'est le refus absolu de la violence, c'est le refus absolu du racisme, c'est la volonté d'assimiler les étrangers qui veulent aimer notre pays et qui aiment notre pays.
Mais
c'est
que
le
ça
refus
dit de
des discriminations, c'est le refus de l'homophobie, c'est le refus de l'antisémitisme. Mais non, ça dit deux, parce que je les connais très bien. D'ailleurs, excusez-moi, je ne savais pas que vous allez me poser cette question. Hein. Donc pourquoi je vous ai parlé des néo-nazis qui m'attaquaient en permanence? C'est qu'en fait,
vous
c'est
dites, je connais ces mouvances.
Mais bien sûr que je les connais depuis des années, depuis le début de mon origine politique, de mon engagement politique. Je les combats. Ils font de la taquilla. D'ailleurs, ils sont comme les islamistes, ces gens. C'est-à-dire qu'ils n'avouent pas leurs vrais sentiments, ils n'avouent pas leur vraie idéologie. Ils viennent vous voir avec des beaux sourires. Ils sont bien peignés, ils sont bien habillés, et vous voyez pas que ce sont des dingues.
Comment Jean-Philippe Tanguy pouvez-vous?
Et dès qu'on les voit, on les dégage.
Comment pouvez-vous garantir que l'arrivée au pouvoir du RN ne draine pas derrière elle des personnages de cette sorte?
Mais parce que grâce à Dieu, dans notre pays, ces gens sont complètement... ils peuvent être violents, ça peut malheureusement connaître des violences inacceptables, mais ils ne représentent rien. Voilà. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle de notre siècle. Les groupuscules violents ne représentent rien en nombre. Ils ne parlent pas à la population française, ils n'intéressent pas la population française, et la population française veut les combattre. C'est pour ça qu'ils se cachent. Parce que vous savez, quand vous connaissez évidemment l'histoire, vous intéressez à l'histoire, les nazis à l'époque, ils se cachaient pas, hein. Si vous lisiez l'abomination qu'est Mein Kampf, tout est écrit dedans, hein. Toutes les horreurs, tout le racisme, l'antisémitisme, la volonté impérialiste de conquérir l'Europe et de soumettre tous les peuples d'Europe, d'éliminer les Juifs de toute l'Europe, était dans dans ce que disait Adolf Hitler. Donc il y avait aucune dissimulation. Donc aujourd'hui, ces groupuscules ont honte d'eux-mêmes et ils ont raison d'avoir honte d'eux-mêmes. Ils savent que la France, le peuple allemand, les peuples européens ne veulent pas cette idéologie mortifère, haineuse, dégueulasse, et il faut les combattre.
Jean-Philippe Tanguy.
Et la vraie question, c'est pourquoi ces groupuscules sont si peu dissous.
Jean-Philippe Tanguy.
Le gouvernement les laisse prospérer. Et ça, c'est un vrai problème.
Jean-Philippe Tanguy, il y a eu quelques dissolutions, pas suffisamment à vos yeux. Jean-Philippe Tanguy, 125 milliards d'économies. Une question d'abord sur les économies que cherche actuellement le gouvernement. Ils ont évoqué éventuellement de taxer l'épargne salariale avant que hier soir, finalement, Sébastien Lecornu, semble-t-il, fasse machine arrière. Est-ce que ça pourrait être une piste?
Non, c'est vrai que c'est profondément injuste. C'était comme 1 milliard d'euros. Hein. Ça, c'était un milliard d'euros d'impôts pris sur l'épargne salariale des Françaises et des Français. Donc, c'était beaucoup d'argent. On en est quand même aussi au fait que le gouvernement a tellement de fuites et ne maîtrise même plus ses propres troupes qu'ils ont fait un article 40 pour signaler au procureur.
Sébastien Lecornu qui dit qu'il va porter plainte à cause des fuites, effectivement, des projets du gouvernement.
Ils n'ont plus aucune autorité sur leur propre cabinet ministériel. Enfin, il y avait déjà eu des tests de drogue. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte que le gouvernement de la République est tellement débordé par des choses inacceptables qu'ils font des tests anti-drogue dans leur cabinet et ministériel. Et maintenant, ils portent plainte contre leurs propres collaborateurs dans les cabinets ministériels, parce qu'il y a des fuites. Mais vraiment, le macronisme jusqu'au bout, c'est le calice. On boit le calice jusqu'à
la ligne. J'ai toujours pas compris où est-ce que vous alliez trouver les 125 milliards. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'il y a une piste, elle est refermée.
Mais c'est pas une économie, ça, c'est des taxes, madame de Malherbe. C'est pas une économie de prendre de
donc les 125 milliards, ce sera des économies.
C'est que des économies. Ce ne sont que des économies. Vous savez, ces 125 milliards d'euros, d'où ils viennent? C'est un rapport de Bercy, c'est ce qu'on appelle un ajustement budgétaire. Pour établir les comptes, il faut 125 milliards. Soit des économies, soit des hausses d'impôts. Le rapport de Bercy remis au ministre de l'économie voulait faire à peu près moitié-moitié. Non, on fait pas moitié-moitié. C'est des économies sur, la politique, migratoire, sur la contribution à l'Union européenne, sur le millefeuille territorial, sur la bureaucratie, sur un certain nombre de systèmes injustes que Marine Le Pen présentera mi-octobre. Et la trajectoire sera présentée entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et vous verrez que tout ça sera très clair.
Vous associer,
et c'est très important.
Allez vous associer et vous montrer aux côtés de Nigel Farage avec cette situation où on se retrouve à avoir un texte où vous êtes obligé de le justifier derrière, mais il semble quand même à la défaveur, évidemment, de la France. Est-ce que vous n'avez pas été les dindons de la farce dans cette histoire? Parce que Jordan Bardella n'a pas été le dernier.
Non, c'était courageux parce qu'il faut envoyer. Il y a une seule politique migratoire qui a vraiment fonctionné ces dernières années, c'est l'Australie, en envoyant un signal très clair à tous les migrants et les clandestins. Vous n'avez pas d'avenir en Europe, en France, au Royaume-Uni. Ne risquez pas votre vie, ne payez pas les passeurs, ne prenez pas les bateaux depuis les côtes africaines ou turques pour venir en Europe. Vous n'avez pas d'avenir chez nous, vous ne serez pas reconnu comme un migrant légal. Donc ne venez pas. Voilà, ne venez pas. Et c'est très courageux parce que, vous voyez, c'est facile d'utiliser les migrants, comme des arrangements entre les pays. Aujourd'hui, l'accord, il est quand même sordide parce que peu de gens en parlent de l'accord qu'il y a aujourd'hui entre le Royaume-Uni et la France. C'est quoi? C'est take in, take out. Donc, tu me prends un migrant, je t'en donne un autre. Tu prends un Soudanais, je te prends un Afghan. Mais qu'est-ce que c'est que ces comptes sordides? Et personne dit rien et c'est nous qui sommes des méchants. Il faut appliquer la loi internationale. Nous, on veut que chacun reprenne ses migrants. Et la France ne peut pas demander aux pays méditerranéens africains de reprendre les clandestins si elle-même, elle reprend pas les siens. Voilà. Donc cette espèce d'hypocrisie et de politique à la petite semaine.
Jean-Philippe Tanguy, sur ce volet,
nous, on est cohérent.
Sur ce volet international, une dernière question. Sarah Knafo dit qu'elle aimerait potentiellement être ministre dans un gouvernement Bardella. Sarah Knafo dit par ailleurs que l'AFD, c'est pas des néo-nazis et siège avec eux au Parlement européen. Est-ce que les amis de vos ennemis sont quand même vos amis? Est-ce que Sarah Knafo, dans ces conditions-là, peut vraiment travailler avec vous?
Non, mais Madame Knafo est prête à tout pour exister, relativiser ce que vous venez de dire. Mais aussi, je vous rappelle que quand Monsieur Bannon avait fait un salut nazi aux États-Unis dans une convention, Jordan Bardella avait immédiatement quitté les lieux. Sarah Knafo était restée en disant que c'était pas si grave. Moi, je ne comprends pas comment Sarah Knafo peut tenir ses positions. Je crois que c'est de l'opportunisme absolu, tout pour exister, trahir tout le monde. Bon, cet été aussi, ça n'a pas fait grand bruit. Enfin, je tiens quand même à le dire. Elle avait donc fait pression, Madame Knafo, sur Charles Laloncle, député qui allait devenir rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, pour ne pas auditionner ses copains Xavier Niel et Mathieu Pigas, milliardaires, pour pas qu'ils soient gênés par les questions de la commission.
On lui posera la question.
Sarah Knafo. J'aimerais bien qu'on lui pose, parce que ça fait deux semaines qu'elle est partout sans qu'on lui pose cette question de trahison et de pression, parce qu'elle est anti-système, sauf pour dépendre Xavier Niel et Mathieu Pigas.
Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale et député de la Somme, vous êtes bien sur RMC et BFM TV.